quand les gens disent ah ouais, j'ai vendu pourtant, c'est bon ce mois-ci, pump it up. Ben oui, mais il reste combien à la fin? T'as dépensé combien? Vraiment pump it up ou en fait
Dans cet épisode, je rencontre Stéphanie Pinault, avec qui la gestion d'entreprise est à la fois sharp et fun. Sharp parce qu'elle est experte comptable et commissaire aux comptes. Fun parce qu'elle est pleine d'humour et du coup, ça devient très sympa la gestion. Ça t'intéresse? Eh bien, à tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Épisode précédent, je t'ai partagé mon chemin d'achat de mon premier bien immobilier, ma maison. Aujourd'hui, nous revenons vers l'entrepreneuriat en parlant de gestion pour que ta boîte dure et prospère en toute sérénité. Pour rappel, inscris-toi au défi Liberté de Nathalie Cariou du 16 au 21 janvier. Salut Stéphanie!
Bonjour Cécile, tu vas bien?
Très très bien, ça fait très plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir et un honneur.
Donc aujourd'hui, je reçois Stéphanie Pinault qui accompagne les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. J'ose dire pour ne pas finir à poil. Stéphanie a été experte comptable et commissaire aux comptes, donc elle sait de quoi elle cause. Hein. Et donc aujourd'hui, elle fait de l'accompagnement en gestion d'entreprise. Si tu imagines un expert comptable comme un homme sérieux, vieux, en costume trois pièces, avec des lunettes, bon, bah, c'est pas Nathalie, à part les lunettes, quoi. Pardon, Stéphanie. Stéphanie est une femme plutôt jeune, fun. Elle est habituellement un large sourire, comme tout de suite en face sur mon écran, quand elle ne rit pas aux éclats. Elle est pleine d'humour et ce qui rend la gestion beaucoup plus légère. Donc, si ça t'intéresse de savoir tout ça, je te donnerai en fin d'épisode tous les liens de description pour pouvoir voilà, la connaître mieux, la découvrir et en rentrer dans son univers. Stéphanie est aussi gestionnaire, donc elle est aussi très concrète et sharp et précise quand il s'agit de gestion. Elle est compétente. Et donc, nous nous sommes connus par l'Académie du podcast que nous suivons, dont nous suivons toutes les deux la formation pour le podcast. Et donc, on s'est rencontrés à Paris en mai dernier et j'ai eu un coup de cœur voilà, de relation en voyant cette personne et aussi sa manière d'aborder la gestion qui souvent est quelque chose de lourd. Est-ce que tu veux dire quelque chose en plus pour te présenter?
Je suis mariée depuis plus de 20 ans, j'ai deux ados, donc du coup, la communication, entre guillemets, complexe et compliquée, c'est un truc que je maîtrise
Au quotidien.
au quotidien en ayant deux ados. Je travaille avec mon mari, Cyril, qui lui n'y connaît strictement rien en gestion. Parce que quand j'ai commencé à vouloir expliquer aux gens ce que je faisais, j'ai bien vu qu'on n'était pas sur la même planète. Donc en fait, on travaille en couple parce que je lui explique ce que je veux expliquer. Lui, il me dit ça passe, ça, je te comprends, ça, je comprends pas du tout. Et on vulgarise comme ça ensemble. Et comme bah nous, enfin, notre valeur commune, c'est vraiment l'humour. Eh ben, il n'y a pas un brainstorming où il n'y a pas une blague. Et du coup, ben ça, on le ressort derrière parce que ce qui nous fait marrer, ben, même si on est bien perché, on considère que potentiellement, ça peut aussi vous faire marrer.
Tout à fait, tout à fait. Je n'écoute pas beaucoup de podcasts et j'ai écouté à peu près tous tes épisodes de podcasts et voilà, je me souviens d'un certain nombre où à chaque fois, en effet, on rit. Donc ça fait du bien parce que tu retiens les choses, notamment, voilà, je pense que je vais la reprendre du fait dans un épisode prochain, dans l'épisode 29, a priori, l'histoire des impôts, où tu prenais la chanson des Inconnus. Donc ça, j'avais adoré.
Bah, clairement, c'est mes références. J'ai 44 ans, donc j'ai grandi avec Les Inconnus, le Club Dorothée, Les Nuls. Et bah, c'est des choses qu'on retrouve en fil conducteur derrière parce que c'est toujours d'actualité.
C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux chiffres et à la gestion d'entreprise?
Ah, ça, c'est une histoire personnelle, en fait. C'est quand j'étais petite. Je n'étais pas grande, je ne le suis toujours pas. Mais quand j'avais 8-10 ans, mon papa a fait faillite. Il a voulu créer un magasin de sport de seconde main, sauf que dans les années 80-90, la seconde main, ce n'était pas du tout à la mode. On était à la consommation effrénée parce que bah, c'était facile à cette époque-là et c'était nouveau et on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Donc, mon papa a mis la clé sous la porte en moins de 6 mois. Il y a eu un avant et un après, en fait. L'ambiance familiale a complètement changé et c'est devenu un peu plus austère, un peu plus rigide, un peu plus stressé, un peu plus. Le volume sonore a monté, hein, c'était moins fun. Et ça, c'est des choses où moi, j'ai voulu comprendre parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses. Donc, j'ai analysé les choses assez tôt et je me suis dirigée sur une filière économique d'abord. J'ai fait un bac ES. Et puis après, j'ai fait administratif, économique et social parce que j'avais encore besoin de comprendre. Et tout ça m'a emmenée à l'expertise comptable parce que mon but, c'était vraiment de faire que les gens ne se plantent pas, qu'ils ne soient pas mon papa.
Je connaissais l'histoire parce que tu le racontes dans un des épisodes, mais c'est important de voir voilà la source quoi, parce que c'est très touchant de voir quand on est touché personnellement, de dire bon bah comment est-ce qu'on peut aider les autres, comment je peux contribuer pour éviter que d'autres personnes vivent pas ce que mon papa a vécu, puis toute la famille finalement, parce que ça a un impact sur
Ça.
toute la famille quoi. Donc
Alors, en joyeuse fin, aujourd'hui mon père est entrepreneur, il a une super société qui tourne, il devrait être à la retraite, mais il n'arrive pas à lâcher tellement ça tourne et tellement il est passionné. N'empêche
Ouais, c'est ça, c'est ça.
est passé par un apprentissage difficile
C'est
et
ça.
l'objectif, c'est que justement l'apprentissage ne soit pas aussi difficile que ça, qu'il soit beaucoup plus léger, plus fun et efficace.
C'est une des choses qu'on pose en coaching où des personnes demandent mais à quoi ça sert d'être accompagné, tout ça. Justement, en gestion, est-ce que justement tu permets de gagner du temps, enfin ça permet de gagner du temps, j'imagine, d'être accompagné, quoi.
Ah bah ça va, ça gagne un temps fou et surtout, moi j'ai 25 ans d'expérience dans le juridique, le social, la compta, dans toutes ces matières hyper techniques et spécifiques où la plupart des gens ne voient absolument pas l'intérêt. Sauf que derrière, il y a des conséquences directes sur ben, ce qu'on gagne à la fin du mois, sur le revenu de l'entrepreneur. Et moi, l'idée, c'est en fait de donner toutes les cartes en main pour que l'entrepreneur il puisse faire les bons choix, qu'il subisse pas. Et en fait, c'est ça qu'on va gagner, le fait de ne pas subir parce que ben on était au courant, on savait ce qu'on faisait et en fait, c'est nous qui menons le jeu. Parce que pour moi, le business est un jeu et quand on ne connaît pas les règles du jeu, ben, c'est difficile de jouer, quoi.
Et justement, quelles sont les principales erreurs? J'allais d'abord les que font alors j'allais dire quelles sont les principales erreurs à éviter en fait dans la gestion de l'entreprise.
Alors, la toute première, la plus grosse, celle que je vois le plus, c'est de confondre chiffre d'affaires et revenus. Quand les gens disent, Ah ouais, j'ai vendu pourtant, c'est bon ce mois-ci, pump it up, ben oui, mais il reste combien à la fin? T'as dépensé combien? Vraiment pump it up ou en fait
En fait, il me reste rien,
C'est ça.
c'est
Et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense parce que justement, la deuxième erreur, c'est que les gens ne font pas le point sur leur charge.
ça?
Ils ne savent pas combien ça leur coûte de travailler. Mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Ce n'est pas très nutritif. Et donc, ça coûte réellement quelque chose de travailler. J'ai jamais connu, même un écrivain, il a des frais. Et faire le point sur vos frais, ben, ça aide quand même énormément.
Donc voilà, avoir conscience des revenus, peut-être est-ce qu'il y a, il y a la question peut-être, alors c'est peut-être plus technique, mais du choix de... moi, je suis auto-entrepreneur et j'entendais quelqu'un récemment qui me disait, oui, fin, en fait, tu aurais peut-être plus intérêt à fonder une entreprise parce que tu peux justement déduire tes frais et donc tu as les charges, enfin tu as l'URSSAF qui est prise seulement sur tes réels bénéfices et pas sur ton CA. Et du coup, bah, tu, voilà, ça ne fait pas la même chose, quoi.
Ah,
Et
c'est
moi,
vrai.
voilà, c'est...
C'est vrai, ça fait pas la même chose. Mais c'est pas pour autant que tu serais mieux dans le statut d'entrepreneur ou de société. En fait, ça, c'est vraiment propre à chaque entrepreneur, chaque situation. Alors, il y a des grandes trames qui se dessinent, hein, je veux dire, un jour, j'ai rencontré une épicière, elle-même était en micro-entreprise, parce que maintenant, la micro et l'auto, c'est la même chose. Et en fait, je crois que la première phrase que je lui ai dit avant bonjour, parce que j'ai pas trop les codes sociaux, c'est « Tu gagnes pas ta vie, toi, en fait. » Alors, clairement, aujourd'hui, c'est une très grande amie et elle a été cliente de mes parcours. Elle en a même essuyé les plâtres parce qu'elle a fait partie des premiers groupes bêta-testeurs. Mais en effet, elle gagnait pas sa vie et aujourd'hui, elle a changé de statut. Mais ce qui est vrai pour elle n'est pas vrai pour tous. Et à l'inverse, on avait regardé avec Gauthier de Faisons le Mur, et lui, le statut de micro, pour le moment, bah, c'était pas si mal que ça en vrai.
Ça, ouais, ça, parce que moi j'avais calculé l'histoire que j'ai peu de frais. Alors là, ça devient un peu moins vrai avec les frais kilométriques, avec l'augmentation du coût de l'essence, mais que comme je suis en dessous de la TVA, bon, bah, j'ai pas les 40% de. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, je pense que c'est intéressant pour moi d'être dans ce statut-là. Mais c'est intéressant, voilà, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment à regarder chaque situation. Enfin,
Oui.
y a pas de choses duplicables comme ça de manière générale, quoi.
Et j'irais même plus loin, c'est chaque situation et presque chaque année. C'est-à-dire que là, en décembre, tu fais le point sur ton année qui vient de s'écouler et tu regardes si le statut est toujours le bon. Sinon, ben, on appelle notre principal partenaire, les impôts, et on fait le point avec eux.
Oui. Alors ça, c'était oui, une des choses que tu apportes sur les impôts. J'ai envie voilà, de partir sur ça, justement. Moi, je me souviens, justement, mon oncle est aussi entrepreneur et il m'avait dit, j'avais un souci à un moment avec une CFE qu'on me faisait payer alors que j'avais fait moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je n'ai pas payé 100 balles sur rien, quoi. Il y a un moment, il faut quand même que ce soit un minimum rentable. Il m'a dit, mais prends rendez-vous avec les impôts. Si ce n'est pas clair, ils sont très bien, ils te répondent et tout ça. Et alors qu'on a peur souvent hein, des impôts, et je n'ai pas regretté parce que de fait, ils m'ont dit non, non, mais vous faites telle chose et vous pouvez demander à être exonéré parce qu'en effet, vous n'avez pas fait un énorme CA, donc c'est possible, quoi.
Les impôts, c'est, si on revient au business, c'est un jeu, c'est un joueur comme un autre. Lui aussi, il veut gagner la partie. Et il gagne la partie comment? Quand toi, ben, tu gagnes aussi la partie, puisque c'est un pourcentage de ce que tu gagnes.
Oui.
Donc, évidemment qu'il veut que tu gagnes lui aussi. C'est vraiment un partenaire et il va tout faire pour ben, que ça se passe bien. Alors, on est bien d'accord que les intérêts sont légèrement divergents dans le sens où lui, il veut une part de ce que tu as gagné et que toi, t'as pas forcément envie de lui donner. Mais ça fait partie des règles du jeu et le voir comme un partenaire, ça change complètement la donne et ça change la dynamique dans laquelle on va aller leur parler.
Oui.
Et cette dynamique-là, ben, je sais pas. Par rapport à toi, par rapport à, je sais pas si tu peux y voir de l'intention ou tu vois, mais si tu pars avec de la bienveillance, bizarrement, ton dossier, ça va être beaucoup plus fluide que si tu arrives en insultant tout le monde.
Ouais, j'ai pu constater ça plusieurs fois pour l'entreprise ou pas, du reste. J'ai un moment, j'avais touché, justement, j'avais fait du CA d'entrepreneur, j'avais été salarié et j'avais aussi touché du chômage dans l'année, donc j'étais là, mais je comprends rien, où est-ce qu'il faut mettre les choses dans les cases, enfin, voilà. C'est, voilà, entre les deux H machin et les trucs, enfin, je comprenais rien, et donc pareil, j'ai pris rendez-vous pour le voir sur place, et la personne m'a remercié, en fait, juste... bah, d'être poli, aimable, et moi j'étais très reconnaissante parce qu'il a pris du temps pour m'expliquer où est-ce qu'il fallait mettre quoi. Et en fait, parfois, voilà, ils se font, enfin, c'est notamment au moment où il faut rendre Les papiers, ils vivent beaucoup de stress et le fait d'avoir quelqu'un qui est juste là, poser des questions de manière bienveillante, eh ben, moi, il m'avait remercié à la fin en disant merci, hein, parce que c'est agréable d'avoir des personnes qui s'adressent à vous comme ça, quoi.
Imagine quand tu es dans un métier où tu es au point de remercier une personne qui a juste été polie et avenante. Enfin, chaud quand même ce métier-là.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je souhaiterais pas forcément
Bah du coup, je connais quelques contrôleurs fiscaux et quelques contrôleurs sociaux. Pour certains, il leur est déjà arrivé de se faire recevoir par une carabine et l'homme a armé en mode quittez mon terrain ou je tire. Bon, bah là, votre dossier, si vous faites comme ça, vous êtes sûr que vous passez dans le rouge et que vous aurez tous les contrôles possibles et imaginables.
La prochaine fois, c'est avec la gendarmerie, quoi.
C'est ça.
Là, tu sais qu'on voilà, on partage le défi J'envoie ensemble en lien avec l'Académie du podcast. Et la question d'aujourd'hui, c'est comment fais-tu la différence dans la vie de tes clients? Donc, j'avais envie de te poser à toi cette question-là.
Globalement, c'est assez différent d'un entrepreneur à l'autre parce que les problématiques pour lesquelles ils viennent me voir sont toutes un peu différentes. Mais il ressort quand même deux choses. La première, c'est arrêter d'avoir peur de l'administratif, ne plus procrastiner et tenir, du coup, devenir proactif de la gestion de sa boîte et ne plus subir ses chiffres. Et il y a un effet, entre guillemets, ricochet, double effet qui se coule. C'est qu'en fait, du coup, ils ajustent leur prix.
D'accord, ouais.
Globalement, tous les gens qui passent par moi augmentent leur prix derrière.
D'accord, ouais.
Et sans stress, sans se dire oh, je le vaux pas, tu vois, le syndrome de l'imposteur, on l'a mis dehors. Ils savent pourquoi ils augmentent leur prix. Ils sont capables de l'expliquer à leurs clients. Et ça passe crème.
D'accord, ouais, super. Donc il y a de la pédagogie aussi sur le fait, oui, c'est intéressant parce que la gestion, souvent on voit ça comme je dois faire mes comptes, je dois, comment dire, justement payer l'URSSAF, des choses comme ça. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion aussi de planification, de vision. Sur le fait de dire, bon, bah, en gros, si mon objectif c'est de faire tant, il faut que je vende telle prestation à tel coût parce que justement j'ai des charges dont tu parlais tout à l'heure. Ça fonctionne. Il y a cette notion de planification aussi auquel on ne pense pas forcément. Est-ce que c'est une des choses qui manque aux entrepreneurs du coup?
Alors, pour moi, la gestion, c'est cinq piliers. Pardon. Cinq piliers. Le premier, c'est la stratégie. C'est la vision de ta boîte.
D'accord.
Pour moi, c'est obligatoire. C'est la direction dans laquelle tu vas. Si t'as pas un peu de stratégie, bah, tu tournes en rond, tu vas nulle part. Deuxième, c'est l'administratif. Ça, c'est ce dont tu parles. Les déclarations TVA, URSSAF, impôts, etc., etc. C'est le moins fun, mais ça, c'est obligatoire. Et si on ne le fait pas, ben, la société coule aussi parce qu'on se fait rattraper. Et puis alors là, intérêt de retard, pénalité, etc., etc. Sans parler du stress, sans parler des courriers, du harcèlement, je mets des grosses guillemets, mais qu'on subit parce que ben, les organismes nous appellent, nous écrivent, etc., etc. C'est pas positif dans la boîte, ça met une pression, ça met une charge mentale qu'on peut facilement supprimer. Le troisième, c'est la trésorerie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Cicéron, donc c'est pas tout neuf. La trésorerie, c'est le nerf des affaires. Alors tout le monde me dit, ouais, c'est le nerf de la guerre. Non, non, la vraie phrase, c'est le nerf des affaires.
D'accord. C'est pas Belloum, c'est Officium, je sais pas ce que c'est,
On oublie la guerre, on s'en
mais
fiche, nous, on joue. Et ce sont nos pions pour, c'est les pions pour jouer, quoi. Hein. On en a besoin. La quatrième chose, c'est l'humain. Parce que si vous allez mal, votre société, elle ira mal. J'ai jamais vu une société aller bien alors que son dirigeant est en burn-out.
Oui, et ça, tu t'en occupes aussi du coup dans l'accompagnement que tu fais, enfin, tu prends soin de ça.
Ben, moi, je suis passée par un énorme burn-out J'y ai gagné des cheveux blancs, j'y ai gagné une cataracte, j'y ai gagné tellement de choses que j'aimerais bien ne pas avoir. Bien sûr qu'on passe par l'humain. C'est C'est vous, c'est votre entreprise, c'est votre bébé. Enfin, c'est comme si en éducation, tu t'occupais pas des parents un petit peu aussi, tu vois. C'est ça marche pas, ça marche pas. Et le cinquième pilier, ça c'est lié à ma carrière de commissaire aux comptes, c'est la gestion des risques.
D'accord.
C'est un jeu, potentiellement on peut perdre. Comment est-ce qu'on sécurise ça?
Et moi, j'ai récemment pris une prévoyance, justement, parce qu'on n'est pas vraiment assuré en tant qu'auto-entrepreneur, par rapport, voilà, en disant, bah, si m'arrive un souci de santé, enfin, en fait, j'ai une amie qui a eu un cancer, et c'est pas ce qui va être l'issue, mais à nos âges, c'est pas forcément très bon, on va dire. Et je me suis dit, c'est vrai que moi, si je n'ai plus la possibilité de travailler, je suis dans une merde grave. C'est-à-dire que tu peux perdre ta maison, tu peux tout perdre, quoi. Donc, pouvoir prendre une prévoyance, justement, enfin, voilà, prévention des risques. J'ai fait ça récemment.
Ben, moi, j'avoue que ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneuse. J'ai adoré ma prévoyance quand j'ai fait mon burn-out. Et franchement,
Oui,
comme
c'est
j'étais
ça.
contente.
Ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose que tu as aussi, quoi. Enfin, ça
Oui.
fait, ça fait. Ouais, c'est important. Là, oui. Il y aura un épisode aussi sur la question de l'assurance, justement, qui doit, à mon avis, faire partie aussi de l'aspect gestion. Enfin, dans cette partie peut-être
Clairement.
prévention des risques.
Clairement.
Voilà. Quelles sont les choses que tu conseilles par rapport à ça?
Sur la prévoyance ou sur
Ouais.
la gestion des risques?
Sur la gestion des risques, ouais.
Sur la gestion des risques, ben, le premier point, c'est de connaître les règles du jeu.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça serait de tester. Dans le sens où, ben oui, une étude de marché, ça, le mot peut faire peur, mais clairement, c'est un bon test. Mon papa avait fait une petite étude de marché dans les années 80, il aurait su que les gens ne voulaient pas de seconde main et que l'occasion, ce n'était pas du tout la bonne occasion.
Aujourd'hui, c'est par contre très à la mode.
Oui, mais chat échaudé craint l'eau froide, je crois qu'il ne relancera pas ce projet-là.
C'est ça, je comprends.
Après, clairement, je pense que pour gérer les risques, s'entourer, que ce soit des clubs d'entrepreneurs locaux, il y en a plein partout, des associations d'entrepreneurs, que ce soit des mentors, que ce soit des formations sur l'entrepreneuriat, la stratégie, je pense que vraiment s'entourer, c'est important. Et s'entourer d'entrepreneurs, parce que moi, j'étais entourée, entre guillemets, par mes amis, mon mari, etc. Mais à l'époque, ils étaient tous salariés et ils ne comprenaient pas les enjeux derrière. Donc, on a des remarques sur le nombre d'heures, sur l'investissement, mais les problématiques ne sont pas les mêmes.
Non,
Et nous,
non,
on
non.
travaille pour nous,
Tout à
alors
fait.
qu'eux travaillaient pour un grand groupe industriel. Ouais, ça,
C'est
vous
important.
entourez d'entrepreneurs, échangez, ayez des entrepreneurs qui débutent, qui sont là depuis un certain temps et vraiment des pointures, que ce soit dans votre domaine ou dans un autre domaine, ça n'a pas d'importance parce qu'au final, la stratégie, la gestion, c'est des choses dont on parle, qu'on soit dans le BTP ou qu'on soit artiste ou qu'on soit.
Ouais, c'est
Ça,
présent partout. Ouais.
ouais, c'est présent partout, c'est vraiment un fil conducteur. Et tous les échanges que vous aurez avec ces entrepreneurs vont vous nourrir.
Ouais. Bah c'est voilà, j'ose parler de Marco Bernard ici. C'est vrai que voilà, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat depuis qu'il est quasi même pas majeur en fait. Je crois qu'il a commencé à 16-17 ans
Oui.
sa première boîte. Bon bah c'est super inspirant et parler des échecs est aussi quelque chose qui permet en fait d'apprendre de ça. Enfin tu vois c'est comme ton papa ou toi tu t'es dit bon la gestion faut s'y intéresser. Là Marco il dit aussi bah, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai commencé à avancer aussi quand j'ai décidé de me former d'être accompagné pour aller au prochain niveau quoi. Donc c'est
Des
très
erreurs? Je crois que c'est la base de l'entrepreneuriat, en fait, hein. Enfin, c'est il n'y a personne qui nous dit ce qu'il faut faire, comment on doit le faire, etc., etc. Ce qui veut dire que c'est nous-mêmes. Bon, ben, on teste, on échoue. C'est pas grave, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. On fera mieux la prochaine fois. Et on se construit comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Tu parlais d'études de marché. Bon, des fois, en effet, il faut tester. Moi, j'ai une formation à Montréal sur l'accompagnement du trauma. Et en fait, je me suis rendu compte en le proposant que finalement, souvent, les femmes qui ont vécu du trauma, il y a un gros déficit, notamment vis-à-vis des agressions sexuelles, il y a un gros déficit d'estime de soi. Et donc, payer quand tu as un gros déficit d'estime de soi pour toi, eh ben, c'est très compliqué, en fait.
C'est vrai.
Donc, du coup, ça ne veut pas dire que j'en accompagne pas, mais du coup, j'ai décidé de changer un peu le positionnement en disant, parce que si je fais que ça, en fait, je ne vais pas gagner ma vie, quoi. C'est un peu terrible, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, bon, bah, voilà, je constate dans le concret que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas forcément fait de travail avant sur ces questions-là, qui veut avancer, mais pas, qui est pas, qui dit, bah, en fait, finalement, inconsciemment, hein, j'ai pas de valeur parce que bah, j'ai été traité comme un objet. Hein, c'est triste, mais c'est ça. Et donc, comment est-ce que je vais investir là-dedans? Bah non, je vais pas investir parce que j'ai pas de valeur. Donc,
C'est ça.
c'est terrible, mais heureusement, il y en a qui sont capables de faire l'investissement pour avancer. Mais c'est voilà, là, c'est un exemple type de bah, j'ai voulu faire ça parce que ça fait sens pour moi de le faire, mais concrètement ça marche pas trop quoi.
J'ai la même chose dans la gestion. Les gens qui sont en reconversion et qui ont une idée géniale, ils vont aller se confronter au réel et à leur idée. Avant de se former en gestion, ou alors ceux qui se forment, c'est ceux qui se sont déjà cassés la figure une première fois. Alors que commencer par apprendre les règles du jeu, moi, ça me semble être l'étape numéro 1. Et en fait, ils y viennent quand ils se sont déjà brûlés les ailes, cramé la trésor et que c'est la dèche.
Et donc repayer,
C'est ça. Non,
aïe
tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment, c'est que les gens qui ont le plus besoin, en règle générale, ne le voient pas
aïe aïe.
et ne sont pas en capacité ou dans l'état d'esprit de se dire c'est ça qu'il faut à ce moment-là. Ouais.
Et enfin, alors j'imagine que toi aussi, t'as vécu ça, de dire au contraire, moi en tout cas je l'ai vécu, de dire bon bah oui, je suis dans la dèche, oui, je suis en difficulté, mais en fait, je fais cet effort parce que je sais que ça va me faire avancer, quoi.
Oui.
Et ça, c'est quand tu fais ça, à la fois, des fois, c'est super angoissant parce que tu dis, je mets mes dernières billes là-dedans, comment ça va aller? Et en fait, je vois, moi, enfin, que à chaque fois, c'est payant, finalement. Enfin,
Je suis d'accord avec toi. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en décembre, donc c'est pas si vieux que ça. Et c'est parce que pour moi, une entreprise, c'est pas que de la gestion. Tu as la production, tu as la communication et tu as la gestion. Et moi, la communication me posait souci. J'avais de gros blocages et il fallait lever ça. Et ça a été mon investissement de décembre. À un moment où ouais, la trésor commençait à tendre et je commençais un peu à grincer des dents, mais comme tu dis, c'est payant. C'est vraiment payant parce que derrière, ça ouvre sur tellement de choses que et des choses que je n'imaginais même pas au moment où tu franchis le pas, tu vois. Enfin, c'est pour ça que j'adore ce jeu, l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment, tu vas de surprise en surprise et de rencontre en rencontre, et c'est tellement fantastique que ben, moi, c'est une drogue pour moi. Hein.
Oui, et puis de fait, comme tu disais plus tôt, des fois, enfin là, moi j'ai été un peu en difficulté suite à un gros contrat qui s'est arrêté. Et j'ai un ami qui travaille dans une école, il m'a dit, mais viens, comme ça, tu auras un boulot de salarié, tout ça, tu auras la sécurité. Et en fait, bon, il m'a relancé plusieurs fois et tout ça. Moi, j'étais là, non, je veux pas, en fait. Voilà.
Je garde ma
Voilà,
liberté.
exactement, c'est exactement le terme. Mais c'est vrai que ça peut être très compliqué pour des proches de saisir ça tant que tu n'y es pas. Et ce que tu me racontes là, moi, ça me fait penser à une scène d'Indiana Jones et la dernière croisade où, tu sais, il y a les différentes étapes et la dernière étape, c'est la foi. Et donc, il faut mettre le pied dans le vide et tu vois pas le chemin, quoi. Tu es là. Et en fait, le fait qu'il fasse ce pas, et ben, il voit finalement cette espèce de raie de pierre qui traverse le gouffre et qui fait qu'il peut aller de l'autre côté, quoi. Mais y a des fois, on est dans ce moment-là qui n'est pas confortable.
Je discutais avec Cédric Essermehan et en fait, je lui expliquais que ce que j'expliquais aux créateurs d'entreprise, C'est comme le premier saut en parachute. C'est en termes d'intensité émotionnelle, je pense que tu vois, le stress de se lancer, de sauter le pas, je pense que ça doit être à peu près équivalent. Je pense parce que pour le coup, autant j'ai créé des structures, autant j'ai jamais sauté en parachute. Un jour, peut-être, sûrement. Et lui, il a été plus loin en disant, ouais, tu sautes en parachute et en même temps, tu fais ton parachute, tu tricotes ton parachute.
Ça va être le défi est important, plus qu'important.
Alors moi, je préfère déjà faire mon parachute au sol, le plier correctement dans le sac et faire les contrôles. Mais lui, il voit l'entrepreneuriat en mode vraiment kamikaze, au fil du temps. Ouais, c'est ça. Chargé!
Je soulignais cet aspect fun et sympa que tu as dans ta manière aussi de parler l'entrepreneuriat et tout ça. Comment est-ce que c'est fun ou ça peut devenir fun de gérer son entreprise, quoi?
Alors, l'administratif, les obligations, c'est jamais fun. Là, cet après-midi, je vais faire ma TVA. Clairement, je ne suis pas jouasse jouasse. Hein. Ce n'est pas le truc qui me fait battre. Je n'ai pas de petit papillon dans l'estomac. Enfin, tu vois, c'est. Mais derrière, ce que je vais en faire, parce que derrière, ça va me donner mon chiffre d'affaires, ça va me donner le montant de mes charges, ça va me donner plein de choses, ça va me donner ma trésorerie. Derrière. Moi, je vais pouvoir poser mes objectifs du mois à venir, des 90 jours à venir, de l'année à venir, et je vais pouvoir affiner ça chaque mois en disant, OK, on est bon, OK, on n'est pas bon. En fait, l'idée derrière, ce n'est pas de voir l'administratif, les déclarations comme une déclaration. C'est juste une étape pour avoir une information dont on a besoin pour gérer correctement. Et comme moi, je suis vraiment une joueuse, une fois que tu me donnes les chiffres, ben, c'est parti, je jongle avec et j'en fais quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'éclate, en fait.
De voir qu'est-ce que je peux en faire après, quel peut être le
C'est
projet, le
ça.
développement, les pistes possibles pour continuer, quoi.
C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ce qu'on était en train de faire parce que ça marche ou bien ça marche pas tant que ça et au final, ça crame plus de charges que ce qu'on avait prévu? C'est toutes des choses qu'il faut suivre régulièrement. Quand je faisais du commissariat aux comptes, j'avais une société du BTP dans mon portefeuille. Et en fait, les mecs, ils étaient super contents de pouvoir m'aligner les devis signés, le carnet de commandes, il était plein, mais pour l'année, quoi. Et à chaque fois, moi, j'arrivais et je leur disais, et en face, il y a quoi comme charge? Parce qu'on en revient toujours à confondre chiffre d'affaires et résultats. Et en fait, il y a les années, entre guillemets, où ils avaient le plus de chantiers. C'était les années où ils faisaient le plus de pertes. Parce que un imprévu sur le chantier, il faut repasser une deuxième couche, et le nombre d'imprévus se multipliait. Et comme ils ne suivaient pas leurs chiffres mois par mois, ils s'en rendaient pas compte. Mais il y a un moment où, quand tu le vois parce que tu le regardes, bon bah là, c'est une question d'attention, hein. On voit là où on porte son attention. Donc, si pendant. Même une journée par mois, on fait de la gestion, une demi-journée, hein, pas besoin de plus. Et ben, on regarde ça et on se dit, oh là, soit faut que j'augmente mes prix, soit faut que je dise non parce que c'est pas rentable. Sinon, on fait une association et tout va bien. Mais le monde de l'entreprise est là pour quand même gagner de l'argent.
Donc ça c'est j'entends, c'est important d'être attentif. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tes clients souvent augmentent leur prix, c'est justement en faisant ce constat-là, c'est-à-dire de dire voilà, on regarde la réalité quoi et pas les idées qu'on a de notre finalement de notre business parce qu'on a signé un contrat et donc voilà, j'ai 5 000 de chiffre d'affaires, tout va bien. Et en fait, non, parce qu'en fait, tu es en déficit, quoi. tout va pas bien.
Et on fantasme tous nos business, hein. Enfin, c'est comme nos enfants, clairement, hein. Ils sont toujours tous polis, tous gentils, et c'est des anges, et on ne voit pas leurs défauts alors qu'ils sont humains et que forcément, il y a un équilibre, donc il y a des forces et des faiblesses.
Tu parlais plutôt de la collaboration avec ton mari et la complémentarité là que vous viviez. Comment justement, enfin, l'aspect humain, c'était aussi un des 5 piliers que tu donnais. comment s'entourer, j'allais dire, dans son entreprise, pas seulement, enfin, voilà, quels sont un peu les critères, parce que bon, des fois, on dit que mari et femme travaillent ensemble, c'est pas forcément l'idéal, donc ça dépend des contextes, j'imagine, mais comment tu vois cet aspect humain au sein de l'entreprise, quoi, de sa propre entreprise?
Question intéressante parce qu'en fait ça va varier en fonction de chacun.
Ouais, j'imagine bien, ouais.
Moi, je me suis déjà lancée toute seule, donc en entreprise individuelle, bah, c'était le statut de mon cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. J'ai jamais été seule en vrai. Parce que j'avais des confrères à côté de moi, parce que j'ai toujours pu décrocher mon téléphone quand j'avais un souci. Que ce soit un souci avec les impôts, bah, je les appelais en direct et je les connaissais. Enfin, c'était vraiment des partenaires, dans le sens où je connaissais le prénom du gars qui s'occupait de mes impôts.
Cool.
Enfin, mais c'était important pour moi, en fait, tu vois. Enfin, l'humain, il va jusqu'à là. Le fait de rencontrer les gens, je trouve ça vraiment, vraiment important. De pas que les avoir au téléphone, de les rencontrer en vis-à-vis. Donc, quand j'étais toute seule, bah, en fait, je l'étais pas. Clairement, je l'ai jamais, jamais été. Et maintenant que je ne suis plus seule, ben je le suis encore moins. Et on l'est même encore moins dans le sens où ben j'ai des ados qui ont plus de facilité que moi à communiquer, qui ont grandi avec deux parents qui faisaient des blagues tout le temps, donc qui ont un humour bien décapant. Donc régulièrement, on leur pose la question de ben, comment ils voient les choses, quel angle d'approche on pourrait avoir sur cette notion et tout ça.
Wow.
Et ça donne de l'intelligence collective. Parce que pour moi, ça c'est, enfin, on est limité à nos pensées et le fait de se confronter aux autres nous ouvre à un univers beaucoup plus grand. Et ce qui fait que ben, j'ai réussi à mettre dans... J'ai fait une conférence l'année dernière
Ouais. Wow.
et j'ai projeté sur un écran géant un cul de chat. Voilà à quoi ça arrive, le fait de s'entourer. Alors peut-être qu'il faut faire attention à qui on s'entoure, mais peut-être que c'était pas. Mais si, c'était vraiment la bonne personne au bon moment parce que justement, l'idée c'est d'arrêter de penser que la gestion c'est un truc prise de tête, que c'est un truc qu'on veut pas, qui freine et qui fasse grincer des dents. L'idée, c'était justement de dérider la mâchoire et de créer un choc.
Surprise.
Ouais, c'est ça. Et comme tu dis,
Qu'est-ce que
en termes de pédagogie, quand on rigole, bah, on s'en souvient. C'est nos plus grosses conneries dont on se souvient le mieux.
Ouais, tout à fait.
Bon, ben, ils n'oublieront pas cette conférence de sitôt, en fait, hein.
C'est clair, c'est après des années justement, enfin, t'en as un peu parlé à gérer des entreprises pour les autres et tu continues à le faire, enfin, à aider à la gestion. Quel a été pour toi le changement, bah, d'abord d'être, enfin, j'allais dire d'être commissaire au compte, puis vraiment d'être à ton compte parce que t'as pas toujours été à ton compte.
Alors, je suis à mon compte depuis 2012.
Ouais, depuis pas 12 ans.
Ouais. Le temps passe vite. Donc, moi, j'ai commencé à travailler en cabinet en tant que salarié. Donc, je gérais déjà la compta d'autres personnes. J'ai fait de l'audit depuis le début de ma carrière. Donc, j'allais vérifier les comptes des gens, j'allais vérifier la traçabilité des factures, les process. Voir que ben, il n'y avait pas d'erreur, de vol ou de choses comme ça, vérifier les inventaires, tout ça, tout ça. Et puis ben, après, j'ai continué à le faire, mais à mon compte à moi. Donc il
D'accord.
fallait aussi que je gère ma structure.
C'est ça.
Donc, parce qu'il y a un moment donné où j'ai commencé toute seule, et puis après, ben, j'ai commencé à avoir beaucoup de travail. Donc on se pose la question de la délégation. J'embauche, j'embauche pas, je grandis pas. Enfin, c'est des étapes à passer. Donc j'ai passé cette étape, j'ai embauché, et puis à un moment donné, ça a continué à grandir, et je me suis
D'accord.
dépassée par mon succès, et du coup, je travaillais tout le temps.
Ouais.
Une petite moyenne de 70-80 heures semaine.
Petite
Je
louche.
me levais, je pensais boulot, je me couchais, c'était le compte-rendu de la journée de demain, c'est bon, il y a ça, 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 ça à faire. Enfin, c'était pas possible. Donc à ce moment-là, on a coupé.
Ouais.
J'ai vendu la partie expertise comptable et on est parti en voyage avec mes enfants
Ah.
et Marie.
Ah, c'est chouette, ouais.
Donc on a visité 3 continents. Alors, visiter, au pas de
Ouais.
course, hein, parce
Oui.
que en 11 mois,
Oui, ça passe
on a
vite
fait
finalement.
quelques. On a beaucoup, beaucoup bougé. On a beaucoup testé des bus. C'était vraiment autre chose, une autre vie.
Wow.
Ce qui m'a permis de voir autre chose aussi. Je me suis rendu compte que je parlais business, gestion et stratégie, même à l'autre bout du monde. Donc,
Ça parle quand
ça m'a conforté dans le fait que j'étais quand même au bon endroit. C'était juste la manière de le faire qui n'allait pas.
ouais, d'accord.
Et quand je suis revenue, ben, moi, j'avais toujours mon cabinet de commissariat aux comptes. Donc, j'ai repris mes dossiers que j'avais confiés à un confrère pendant cette année. Et puis, ben, la loi Pacte est arrivée. Alors, la loi Pacte, en fait, elle relève les seuils de commissariat aux comptes. Alors, ce que je vais dire va être du chinois pour la majorité des gens. Mais en fait, le commissaire aux comptes, il est là pour, grosso modo, certifier l'économie. Enfin, c'est le
Oui.
garant de l'économie.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est-à-dire que derrière, on sait que ce n'est pas des bulles spéculatives, on sait que ce n'est pas du vent, c'est des vraies sociétés avec des vraies valeurs. Et donc, on avait à peu près 200 000 mandats sur la France entière, ce qui n'est pas
D'accord.
énorme vu le nombre d'entreprises, hein. Je veux dire, on garantissait l'économie sur déjà un petit panel. Les seuils ont augmenté et du coup, on a perdu énormément de mandats.
Ouais.
Ça a été un truc de folie. Et moi, au début, un peu en mode guerrière, en mode je lâcherai pas, je suis là pour, je suis très forte dans mon métier, je ne lâcherai pas, je continuerai toute seule à faire mon truc. Et en fait, non.
Ouais.
Et en fait, non, parce que l'humain est arrivé derrière.
C'est là le burn-out qui est arrivé, du
Et
coup.
ouais, le burn-out est arrivé à ce moment-là parce qu'il y a eu un choc entre mes valeurs, ce pourquoi je faisais mon métier, et la réalité du métier. Dans le sens où les clients, eux, ne voyaient plus l'intérêt de nos métiers comme on leur avait présenté, le garant de l'économie, le garant de comptes transparents, sincères, etc., etc. Et en fait, je me suis sentie à la solde du client.
Avec une exigence, une
Ben, quand tu es auditeur, tu ne peux pas être à la solde parce que tu ne peux pas être jugé partie. Donc en fait, tu as un regard extérieur, tu étais nommé pour 6 ans et en 6 ans, tu étais indéboulonnable, ce qui voulait dire que s'il y avait un truc à dire l'année 2, tu pouvais le dire, tu n'allais pas te faire dégager. Tout ça a changé et du coup,
D'accord.
tu ne pouvais plus rien dire et je l'ai vu avec mes confrères, hein, je veux dire, les gens qui commençaient à serrer les mâchoires en mode ah, oh, ça, c'est pas super, mais en même temps, comment je le dis aux dirigeants, comment je le tourne? Mais on change de métier là, on est conseiller, on est consultant, mais on n'est plus commissaire aux comptes. Et ce choc intellectuel, ben oui, il m'a fait plonger méchamment. Et du coup, j'ai dû réfléchir à comment je retourne ça pour que mon expérience, ma compétence, elle soit quand même au service de tous ces entrepreneurs qui ont besoin, mais que moi, je ne me crame pas avec des gens qui veulent pas bosser avec moi, qui n'ont plus envie d'avoir un commissaire aux comptes ou même un État qui ne nous soutient pas.
Oui, je comprends. Non, c'est terrible parce que c'est un métier important. Enfin, moi, j'ai fait partie de plusieurs associations. Il y avait toujours quelqu'un, en effet, qui checkait les comptes. Et c'est important parce que c'est garant de la vérité, enfin, quelque part, de la.
Ah bah ça instaure de la confiance.
Voilà. Donc, tu peux pas, voilà, tu fais une AG parmi les il y a rapport moral et rapport financier, quoi, forcément. Et donc, c'est aussi garant de l'intégrité de la mission de l'association, quoi. Donc ça fait sens, quoi. Donc, oui, alors merci pour ce témoignage, hein. C'est important de voir aussi l'importance des valeurs, finalement. Et toi, justement, quelles sont les valeurs qui sont, je pense qu'il y a l'humour dedans, mais qui sont importantes pour toi dans ton entreprise aujourd'hui.
Alors, en effet, il y a l'humour. Ça va avec la pédagogie pour moi. Il y a aussi la qualité et le respect. C'est bah, le respect de l'humain, le respect des lois, le respect. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'ai prêté serment d'appliquer et faire appliquer la loi, même si aujourd'hui, je ne suis plus sous le coup de ce serment. Il m'aura quand même marqué. Donc, ça reste. Et la qualité, dans le sens où. Quand une information est donnée, elle doit pouvoir être utilisée. Sinon, elle n'est pas donnée.
Mmh.
Les gens en face doivent pouvoir comprendre ce qu'on dit, donc c'est vulgariser vraiment un maximum. Mes outils de travail, c'est Barbie. Alors, elle manque d'une petite coupe de cheveux là, mais
Tu lui parles du coup, tu lui
non, mais je la montre.
D'accord, tu la montres.
Et c'est comme le chat, tu vois, ça casse quelque chose dans la tête.
Okay. Pourquoi
Et quand tu parles juridique et que tu sors Barbie, bizarrement, ben en fait, les gens, ils se détendent.
Donc du coup, ils comprennent mieux, bizarrement,
Et voilà, ils comprennent tout de suite mieux. Donc je me suis perdue dans ma Barbie. Quelle était la question? Pardon?
les valeurs, donc tu parlais de
Donc,
qualité, d'humour,
de
d'humain.
respect
Ouais.
et ouais, ça c'est vraiment les trois plus grandes pour moi. En sachant que dans qualité, je mets vulgarisation, je mets enfin, tout ce qu'il y a à mettre derrière, en fait.
D'accord,
C'est
ouais.
un mot, mais
Oui,
c'est un mot
oui, c'est ça,
Bali.
de transmission, oui, c'est ça, parce que si tu transmets, enfin, tu noies, par exemple, ton client sous plein d'informations qui ne le concernent pas, voilà,
Ça marchera
je
pas.
suis auto-entrepreneur et ça me va très bien, et tu vas commencer à me parler de Sésu, de machin, de trucs, et de connaître tous les systèmes qui existent pour d'autres entreprises.
Oui, mais non.
Je suis là, oui. Alors, je pose toujours une question dans mon podcast qui s'appelle Plus de vie. Je demande à la fin une parole de vie en lien avec, voilà, pour mes auditrices, en lien avec ce que tu as partagé. Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme parole de vie?
Qu'est-ce que tu appelles une parole de vie?
J'ai souvent cette question, il va falloir qu'un jour je la clarifie. Une parole qui, voilà, qui fait aller vers plus de vie. Enfin, j'appelle, voilà, mes auditrices, ce sont les vivantes. Donc,
Ah.
être pleinement, tu vois, soi-même, être pleinement vivante. Et donc, quelle parole de vie, c'est en lien avec la gestion, mais on a vu qu'avec toi, c'est sympa. Donc, c'est
La
humain.
première chose qui me vient, c'est la phrase que la pédiatre de mes enfants, donc ça date, hein, c'était il y a 15 ans, puisqu'ils ont 15 et 17 ans aujourd'hui, me répétait sans arrêt, c'est la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Et que ce soit dans la vie, dans l'entrepreneuriat, où vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, vous mettez pas la rate au courbouillon, stressez pas, culpabilisez pas, et faites juste ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez, et ça va bien se passer.
Super, merci beaucoup. C'est pleinement, voilà, comme femme et comme entrepreneur, voilà. Allez-y avec ce que vous avez, et ce sera très bien. Alors, si tu veux avoir régulièrement des conseils en gestion de ton entreprise, je t'invite à l'écouter, voire t'abonner au podcast super de Stéphanie sur la gestion dans son plus simple appareil. Hein, tu en apprendras sûrement beaucoup et en plus avec fun, comme je disais. Sa pochette est significative. Hein, si tu ne t'occupes pas de ta gestion, tu finiras en tenue d'Adam. Tu as aussi une newsletter et des formations. Et donc, si tu veux en savoir plus, le lien vers son site internet, la troisième dimension, sera aussi dans la description. Voilà. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. C'était très chouette d'échanger avec toi. C'était très riche et je suis sûre que voilà, ça va bien profiter aux auditrices d'avoir ces éléments sur l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, un des trois piliers possibles, voilà, de la liberté financière avec l'immobilier et les placements. Donc, c'est important d'y réfléchir.
Et tout comme l'entrepreneuriat, placement, investissement, ça se gère. On
Voilà.
regarde les rentrées, les sorties, on fait le point, tout pareil.
Génial, génial. Bah, merci beaucoup. À la prochaine, Stéphanie.
Merci Cécile, à bientôt. Au
Allez,
revoir.
au revoir. Dans cet épisode, tu as pu saisir l'importance de t'occuper de la gestion de ton entreprise et rencontrer quelqu'un qui peut t'accompagner sur le sujet si c'est un défi pour toi. Cela te permet de gagner du temps et d'avancer plus vite. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Notes d'épisode, tu trouveras des liens vers l'univers de Stéphanie Pinault et vers le défi liberté de Nathalie Cariou. Dans le prochain épisode, je te raconte comment j'ai rebondi quand j'ai quitté la gymnastique, qu'est-ce que j'ai mis en place, appris pour vivre cette nouvelle vie autrement. D'ici là, buen camino!